VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Le président François Hollande doit rencontrer demain son homologue américain Barack Obama dans le cadre d'une tournée du leader français qui le mènera dans plusieurs pays pour intensifier la lutte contre le groupe État islamique et trouver une solution à la guerre civile en Syrie. Les précisions de Michel Joseph.
Selon la Maison-Blanche, les deux leaders discuteront des moyens de renforcer la coopération avec la coalition menée par les États-Unis et qui effectue des frappes aériennes contre des cibles djihadistes en Irak et en Syrie depuis plus d'un an. Les avions français ont fait partie de ces efforts et des officiels américains ont dit à l'agence Reuters que cette plus grande coopération n'inclut pas un élargissement de l'opération à des forces terrestres en Syrie. Le président Hollande, qui a reçu aujourd'hui le premier ministre britannique David Cameron, a déclaré que l'objectif militaire en Syrie et Irak était de faire le plus de dégâts possible au groupe État islamique, une position à laquelle M. Cameron a apporté fermement son soutien. « Nous allons intensifier nos frappes, nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste », a dit le président français. M. Hollande rencontrera mercredi la chancelière allemande Angela Merkel avant de se rendre à Moscou pour des entretiens avec son homologue russe Vladimir Poutine. Une résolution adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'initiative de la France exhorte tous les pays qui le peuvent à œuvrer à la prévention et à l'élimination des actes de terrorisme du groupe État islamique et autres groupes et aussi à l'éradication des sanctuaires qu'ils ont créés dans l'est de la Syrie et les parties nord et ouest de l'Irak.
En Belgique, troisième jour d'une vaste opération antiterroriste. Le pays est toujours sous la menace et en état d'urgence. Il y a eu une nouvelle vague d'interpellations, mais Salah Abdeslam, suspect clé dans l'enquête sur les attentats de Paris, reste introuvable. Toujours concernant la lutte antiterroriste, mais en Afrique cette fois, le Mali observe trois jours de deuil national après l'attaque qui a fait au moins 19 morts dans l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Plus de détails avec Idriss Fall.
Les drapeaux sont en berne dans la capitale malienne où la sécurité a été renforcée. Par solidarité, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée observent trois jours de deuil. Le président sénégalais Macky Sall est venu hier à Bamako présenter ses condoléances, assurant que le Mali ne sera jamais seul dans ce combat. Le président béninois Thomas Yayi Boni et le premier ministre de la transition burkinabé Isaac Zida se sont rendus aujourd'hui pour exprimer leur soutien aux Maliens. Pour le procureur Boubacar Sidiki Samake, chargé de l'enquête, les auteurs du forfait ont bénéficié de complicité. Les limiers de la police ont trouvé une valise contenant des grenades dans le hall de l'hôtel. L'attentat a d'abord été revendiqué par Al-Mourabitoun, un groupe extrémiste dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne. D'ailleurs, d'après Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, Belmokhtar, très recherché, est plusieurs fois donné pour mort et toujours vivant. Dans un autre communiqué adressé à l'AFP, le Front de libération du Massina, un groupe djihadiste du centre du Mali, a aussi revendiqué cette attaque.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, la campagne électorale bat son plein et pour la société civile, c'est l'occasion de sensibiliser les électeurs à la corruption liée aux élections. Zoumana Wodogo, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dit plus.
Pendant que les politiques battent la campagne pour avoir des électeurs à tout prix, à côté, il y a les organisations de la société civile qui font elles aussi la campagne, mais pas pour les mêmes raisons. Le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, mène, elle, une campagne contre les pratiques irrégulières en matière d'élection. Dieudonné Yameogo, le président d'honneur du RENLAC, explique.
Aujourd'hui, que constatons-nous? C'est la publicité partout. Purement et simplement, la publicité politique. Or, la loi électorale interdit ça. Au niveau des affichage même. La loi électorale indique qu'il y a des lieux spécifiés par l'autorité communale où les partis doivent aller afficher là-bas. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, les affichages se font n'importe comment. Sur le plan financier, nous menons une campagne de sensibilisation pour amener les gens à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas prendre 10 000 francs pour aller voter là qui est le problème. Le problème qu'on doit résoudre là, c'est savoir est-ce que la personne qu'on va élire là, est-ce que cette personne est à même de régler nos problèmes.
En parallèle, il y a cette autre campagne qui se base sur l'humour pour corriger les mœurs politiques. On écoute Abdoulaye Diallo du Centre national de presse Norbert Zongo, initiateur de Humour. corruption électorale et élections apaisées.
On a décidé effectivement d'utiliser l'humour, la dérision, mais pour passer un message fort. Chaque humoriste va vendre son projet et le public est tenu de voter. Et à la fin, on va choisir le président qui sera élu. Et c'est pour ça qu'on a installé une commission humoristique électorale nationale indépendante, la CHENI. Le président élu va passer un message, cette fois-ci, pas un message d'humour, mais un vrai message au candidat qui va être élu après les élections du 29 novembre. C'est cette campagne d'éducation, de sensibilisation de la population. C'est cette campagne que nous menons. Nous ne menons pas la campagne pour être élu député ou être élu président, mais pour que quand les députés et le président qui vont être choisis soient vraiment le reflet de la volonté du peuple.
Après ta révolte, ton vote, tel est le mot d'ordre lancé par le balai citoyen pour inciter la population à aller voter. Suivons ce qu'en dit Seydou Zengue et Kevin Tiemtouré, deux jeunes étudiants.
On s'est révolté contre le président Blaise Compaoré et deuxièmement contre un coup d'État qu'on a jugé stupide. Passons maintenant au vote. Votons celui que nous jugeons capable de nous diriger et ne pas chercher à modifier l'article 37 comme certains l'ont voulu faire.
C'est un slogan qui nous pousse à aller voter, à choisir un président qui va nous conduire à un développement, à un pays plus émergent.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le ministère de l'Intérieur a interdit provisoirement aujourd'hui les activités des principales organisations de la société civile, animatrices du mouvement anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ces groupes étaient déjà poursuivis pour insurrection. Cette décision fait suite à de nouvelles violences dans le pays ce week-end, au moins 5 personnes tuées. Des détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, qui commence par la situation dans la capitale.
Les témoignages de la population du quartier Ngagara sont formels. Vers 16h samedi après-midi, dans le bar chez Masuguru, près du lycée Saint-Albert, un groupe de policiers tire. Puis une vingtaine de jeunes qui étaient en réunion de mariage sont arrêtés. Mais entre-temps, trois personnes, dont un employé d'une banque, sont tuées. Le porte-parole adjoint indique que des criminels armés étaient en réunion dans ce cabaret. Des armes, dont des Kalachnikovs, ont été saisies selon la police. Presque toute la nuit de samedi vers dimanche, les tirs à l'arme automatique et des grenades ont été entendus dans différents quartiers contestataires au sud et au nord de Bujumbura. Une personne a été tuée à Ruziba au sud, tandis qu'une autre a été retrouvée morte au nord du pays, dans la province de Kirundo, près de la frontière avec le Rwanda. Selon une ONG internationale réfugiée, la violence est aussi remarquée dans la province de Makamba au sud du Burundi. Des familles craignent pour leur vie et dorment dans la forêt ou à la belle étoile, tout comme la plupart des citadins vivant dans les quartiers contestataires de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le pape François s'apprête à visiter trois pays d'Afrique du 25 au 30 novembre, à savoir l'Ouganda, le Kenya et la Centrafrique. Le souverain pontife trouvera pour son premier voyage sur le continent africain une église catholique en pleine croissance, véritable pouvoir politique et social, mais qui affronte des défis redoutables, de l'islamisme radical à la prolifération des sectes évangélistes. Morgane Guiriec.
Et c'est la première fois que Jorge Bergoglio se rend en Afrique, continent où la croissance des catholiques est la plus rapide. Au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique, François trouvera des communautés chrétiennes sur la défensive face au djihadisme. L'Église catholique africaine campe sur des positions très intransigeantes en matière de mœurs, dénonçant le conditionnement par les pays occidentaux de leur aide à l'adoption de législations favorables à la contraception, l'avortement et l'homosexualité. Le pape devait lancer des appels forts à maintenir la coexistence pacifique et l'esprit de tolérance traditionnelle entre chrétiens et musulmans. François devrait aussi demander aux catholiques africains de surmonter les haines ethniques alors que celles-ci renaissent au Burundi de manière menaçante. L'échec à empêcher le génocide du Rwanda en 1994 reste le grand échec du catholicisme africain.
Le secrétaire d'État américain John Kerry entame aujourd'hui à Abu Dhabi une tournée au Moyen-Orient dominée par le conflit en Syrie et la poursuite des violences entre Israéliens et Palestiniens. Et en Tunisie, un groupe djihadiste a revendiqué au nom de Daesh, l'État islamique, la décapitation de jeunes bergers tunisiens, l'accusant d'avoir informé l'armée sur ses mouvements dans la région de Sidi Bouzid. La décapitation de cet adolescent le 13 novembre a suscité l'émoi et la colère en Tunisie. Ces assassins avaient ordonné à un proche de la victime, Chokri, 14 ans, témoin de la scène, de ramener la tête du défunt enveloppée dans du plastique à sa famille. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.